Bonsoir, merci d'être venu à la dernière séance du cycle Norme, genre et transgression, avec plus particulièrement genre sexualité et reproduction, présenté par Laurence Tain, démographe, sociologue, maîtresse de conférences en sociologie et membre du Centre d'études démographiques à l'Université Lumière Lyon 2.
Merci, donc merci de cette invitation. Bon, donc je vais essayer de parler sur le thème prévu, bien entendu. Comme on est peu nombreux, bon, je vais peut-être essayer de pas parler trop longtemps pour m'adapter, je dirais, à vos questions, à vos questionnements. Mais néanmoins, je vais évidemment commencer par introduire le thème pour lequel je suis là. Alors, la question, donc, c'est les liens entre genre, sexualité, reproduction et le biais par lequel j'avais indiqué que je l'aborderais, c'est la question des techniques de reproduction, c'est-à-dire les différentes techniques médicales utilisées aujourd'hui pour la reproduction. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi donc une sociologue vient-elle parler de techniques médicales et pourquoi, qu'est-ce que ça a à voir avec le genre, la sexualité, la reproduction, etc. Alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que, de mon point de vue, c'est une scène sociale. C'est évidemment une scène sociale. Alors, je vais commencer par vous poser une question à laquelle vous allez répondre sans doute, je sais pas comment vous allez répondre. Est-ce que vous avez idée de la date de la première insémination artificielle humaine? Connue, évidemment. Est-ce que vous avez idée à peu près de quand ça a eu lieu? Oui. Oui, 18e. Mais alors là, c'est que vous connaissez la réponse. Parce que personne ne me donne jamais cette réponse. À peu près. Elle triche, elle a triché. Parce que en général, les gens disent fin du 20e siècle. Bon, 1970 à peu près. Bon, effectivement, c'est le début des banques de sperme en France. Mais effectivement, la première insémination artificielle humaine connue, enfin dont on connaît le, dont il y a eu un résultat, enfin un résultat connu, c'est en 1776. Elle a même eu lieu avant, donc elle a été faite par un couple, un drapier anglais, qui a pratiqué donc cette insémination artificielle sur sa femme, qui a donc cette insémination a réussi, mais elle a été absolument clandestine. Elle a été conseillée par un médecin qui s'appelait Unter, mais elle était totalement clandestine et le médecin a publié cette histoire. Enfin, ça a été publié après sa mort par quelqu'un de sa famille, je ne sais plus qui, et ça a été publié en 1799 par la Royal Society. Bon, donc une scène tout à fait différente de ce qu'on voit aujourd'hui, de la fin du XXe siècle. Pour vous donner une idée, Spallanzani, les grenouilles, ça vous dit quelque chose? Donc les inséminations artificielles donc sur des grenouilles, les expériences sur des grenouilles, ont eu lieu en 1780. Alors, un petit détail comme ça, c'est une histoire au passage, pour montrer comment la science est... comment science et idéologie vont de pair. Donc à l'époque, la question c'était est-ce qu'on est oviste ou pas? C'est-à-dire, est-ce que l'insémination, la reproduction se fait avec l'homme et la femme, avec mâle et femelle, ou uniquement avec femelle, ou etc. Et donc le fameux Spallanzani a fait des expériences assez rigolotes avec ses grenouilles. Il leur a mis des caleçons, enfin il a essayé un tas d'affaires. Et il s'est rendu compte que quand il y avait des caleçons, ça marchait pas. Donc, a priori, je sais pas, on aurait pu penser, il expliquait bien qu'en gros, le sperme, enfin, on aurait pu comprendre qu'il fallait les deux. Eh ben non, il a conclu qu'il fallait uniquement les femelles pour que ça marche. Ce qui est totalement contraire à son expérience. Et l'expérience est totalement bien décrite, très bien faite. Et la conclusion est totalement idéologique. Tout ça pour dire, bon, c'est un détail au passage, mais tout ça pour dire que les choses sont complexes. Alors, si je dis que la scène de la reproduction et de la sexualité est une scène sociale, c'est parce que donc cette première scène de technique reproductive connue a lieu donc sans le médecin, avec le couple, et ça marche. La deuxième scène connue en France, on va dire, hein, la première fécondation in vitro a lieu en 1978 en Angleterre, et celle qui marche en France, la conception a lieu le 10 mai 81, et elle accouche en 1982, c'est la fameuse Amandine. Et la scène n'est pas du tout la même, absolument pas la même. Quand la mère sort de la salle d'accouchement, elle dit à son mari, j'ai fait l'amour avec les trois. Et les trois, c'est Friedman, Testard et l'autre biologiste qui était avec Friedman, avec Testard. Donc elle a fait l'amour avec les trois médecins, enfin, etc. Donc c'est pas du tout la même scène. Cette scène est totalement médiatique. Pour que les journaux ne soient pas là, elle s'est fait passer pour la cousine de la sage-femme, donc c'est pas sous son nom qu'elle est inscrite à l'hôpital. Et en Angleterre, Madame Brown avait conclu une exclusivité avec le Daily Mail de $565,000 pour l'exclusivité de la naissance de Louis Brown. Donc, bon, on voit bien à quel point, enfin, en tout cas, il me semble, cette fabrication reproductive, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est en même temps une mise en scène des rapports sociaux. Deux rapports sociaux. Et donc, c'est là-dessus que je vais centrer mon regard. Il est bien évident qu'il y a au moins deux autres aspects sur lesquels je ne parlerai pratiquement pas. Un premier aspect qui est l'aspect biologique. Évidemment, on peut faire un cours sur les gamètes, sur plein de choses. Donc, c'est évidemment pas mon propos. Et on peut aussi avoir un débat sur pourquoi, comment la création de la vie. Pourquoi la vie, comment la vie, question philosophique à laquelle je ne répondrai pas non plus. Donc, je répondrai à la scène sociale. Enfin, je vais m'intéresser à la scène sociale. Alors, de cette scène sociale, je vais mettre en évidence trois aspects, essentiellement. Le premier aspect qui est la médecine. Le deuxième aspect qui est le genre, et le troisième aspect qui est, on va dire, une scène culturelle, sociale et culturelle. Donc, mon idée, c'est que il s'agit d'abord d'une scène médicale, d'une scène, l'infécondité, c'est le fait de ne pas avoir d'enfant. L'infécondité a toujours été traitée par les sociétés, mais elle est traitée différemment par notre société que par d'autres sociétés. Dans les sociétés préscientifiques, comme le raconte par exemple Françoise Héritier, les femmes stériles étaient par exemple enterrées à l'extérieur de la ville, le ventre en l'air, enfin bon, suivant diverses... elles étaient considérées comme pas, on va dire pas finies, entre guillemets. Donc c'est un certain type de traitement, de sorcellerie, de mise à l'écart, etc. Bon, aujourd'hui, c'est la médecine qui s'est emparée de la scène de la procréation, et notamment, il y a eu un lent, bon, l'émergence de la médecine hein, depuis la Révolution française, et un lent passage des sages-femmes aux médecins accoucheurs. À un moment donné, c'est les sages-femmes qui s'occupaient des accouchements, de la procréation, et petit à petit, elles ont été dessaisies de ce privilège au profit des médecins accoucheurs qui, historiquement, ont conquis la formation dans ce domaine. Alors aujourd'hui, donc, la question de l'infécondité est en partie, si ce n'est essentiellement, traitée par la médecine, par l'hôpital. L'hôpital qui est devenu l'institution majeure du XXe siècle. Au 19e, quand on avait un problème, on allait voir le curé, et au 20e, on va voir le médecin. Enfin, on a d'autres façons de faire, mais bon, disons que socialement, c'est lui qui est devenu dominant. Alors, comment les choses ont commencé dans ces techniques de reproduction ? Eh bien, je dirais qu'au départ, au 20e siècle, L'intérêt des médecins, des biologistes, ça n'a pas été nécessairement la stérilité des couples. Ça a été une alliance des biologistes et des médecins, notamment pour la recherche. Alors, je vais vous lire un tout petit passage de Testard que je trouve tout à fait intéressant. Donc, la première alliance a eu lieu en Angleterre entre Step 2, le gynécologue, et Edwards, le généticien. Et Edwards était très clair, bon, il avait besoin de faire d'avoir du matériel génétique, et il a compris assez vite que ce qui était intéressant, c'était de s'associer à un médecin accoucheur. Pourquoi ? Et ben, quand le médecin accoucheur faisait des opérations, il récupérait des placentas, il récupérait un tas de choses, et donc avec ça, il pouvait faire ses expériences. Et puis, petit à petit, je dis pas ça du tout pour dire que, enfin, c'est pas d'un point de vue moral. Simplement, c'était plus commode, si on veut faire de la recherche génétique, le plus commode, effectivement, c'est de récupérer du matériel dans les hôpitaux. Et Testard le dit de façon très crue, donc Testard, qui est le biologiste français, il le dit donc de façon très crue, voilà, page 195. Alors, il explique ce qui est assez rigolo. Donc, lui, au départ, il a fait de la recherche sur les bovins. Et alors, il explique que c'est beaucoup plus intéressant de faire de la recherche sur les femmes. Alors, voilà pourquoi. Le paradoxe des recherches en physiologie humaine est que dès qu'une collaboration bien comprise assure l'approvisionnement en matériel biologique du laboratoire, le programme peut être exécuté avec des moyens relativement réduits. Une recherche analogue chez l'animal, exige un budget considérable. Car pour établir le statut physiologique du prélèvement, les animaux doivent être placés longtemps en observation, ce qui suppose de gros investissements en locaux, nourriture, soins et personnel spécialisé. Bon, en clair, il faut nourrir les chimpanzés, il faut les soigner, il faut du personnel, etc. À l'hôpital, le service public de la santé prend en charge dans les meilleures conditions toutes les dépenses concernant les patients, puisque l'indication d'hospitalisation est strictement médicale et ignore le projet complémentaire du laboratoire de recherche. Bon, en clair, les femmes à l'hôpital, évidemment, on n'a pas besoin de payer pour qu'elles soient nourries. Si on ajoute que grâce au langage, le patient est capable d'informer le chercheur sur l'histoire de son corps, on admettra les multiples avantages du sujet humain sur le sujet animal. Donc, bon, tout ça pour dire que les débuts ont eu lieu de cette façon. Et donc, c'est évident que les professionnels étaient intéressés à la mise en œuvre des techniques de reproduction. Donc, d'une part, pour des questions de recherche génétique, et d'autre part, parce que les médecins, comme tout professionnel, construisent, je suis un peu crue, mais construisent leur outil de travail. Et donc, ils construisent leur public, leurs patients. Et, par exemple, dans l'hôpital dans lequel j'ai fait mon étude, systématiquement, après les fécondations in vitro ratées, n'ayant pas abouti à un enfant, il y avait une lettre de relance qui disait « je suis désolée que les choses n'aient pas. Donc, vous savez que c'est possible de recommencer. Et donc, voilà le protocole pour recommencer. » Ce qui, de mon point de vue extérieur, d'observatrice, n'est pas une lettre médicale neutre. C'est une lettre de publicité. Une lettre neutre serait « Madame, monsieur, je suis désolée que le protocole n'ait pas abouti à la naissance d'un enfant. Je vous propose, je suis ouverte, je suis disponible à un nouveau rendez-vous pour faire le bilan de la situation. » Est-ce que vous voulez continuer ou pas ? Bon. Bon, cette position des professionnels est liée à un phénomène beaucoup plus large qui est le phénomène de médicalisation de la société. Par exemple, je peux l'observer de façon pointue. Lorsqu'un couple arrive dans le service hospitalier que j'ai observé, ce couple, en termes précis, est dit infécond, c'est-à-dire il n'a pas fait d'enfant. Alors que dire qu'il est stérile, c'est dire qu'il ne pourra pas, qu'il est incapable de faire un enfant, ce qui n'est pas la même chose. Donc il est infécond, il n'a pas encore fait d'enfant. Mais dans les dossiers de l'hôpital en question, il n'est pas enregistré comme infécond, il est enregistré comme dosté, c'est-à-dire dossier de stérilité. Donc il est enregistré comme couple stérile. Or, ce n'est pas du tout la même chose. Un couple stérile, c'est un couple qui, définitivement, est dans l'incapacité de procréer. Et vous voyez qu'il y a un glissement de vocabulaire qui implique ou induit le fait que ce couple a besoin de la prise en charge médicale. Et donc, on induit par exemple ce langage le fait que la médecine pourra venir à bout de ce problème. Ou dit différemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce genre de choses, mais dans notre société, la quasi-totalité des problèmes ne sont plus... de nombreux problèmes sont exprimés en termes sanitaires ou en termes médicaux, alors qu'ils pourraient s'exprimer sur d'autres registres. Et ça, c'est évidemment lié à l'emprise de la médecine dans notre société, à l'offre médicale et aussi à la demande médicale qui va ensemble, à la médicalisation de la société. Alors, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, on en reparlera peut-être dans le débat. Oui, il y a un pouvoir médical dans notre société. Néanmoins, ce pouvoir, notamment sur la question de l'infécondité, a des limites. Par exemple, au sein même du monde médical, il y a des fractions du monde médical, évidemment, qui se sont battues pour qu'il y ait des filières de fécondation in vitro, d'insémination artificielle. Et il y a d'autres filières qui, par exemple, les services de la naissance, de néonatologie, qui se sont élevés contre ces filières parce qu'ils ont dit, depuis qu'il y a des fécondations in vitro, on a des accouchements multiples, on a des problèmes à la naissance et nous, on ne veut pas prendre en charge ce type de problème. Donc, arrêtez de mettre 3 ou 4 embryons pour une femme, ça va pas, il y a des problèmes, donc qui ont limité l'expansion de cette filière. Donc il y a des combats internes à l'hôpital et il y a des combats avec les usagers qui disent on n'est pas d'accord, comment ça se passe, il y a les risques pour la santé des femmes, etc. Donc il y a à la fois un pouvoir et il y a aussi comme toujours des contre-pouvoirs. Donc voilà la première scène que je voulais mettre en évidence, c'est-à-dire que la reproduction, la procréation dans notre société est prise en charge en partie par la médecine, enfin essentiellement par la médecine. Bon, pour donner une autre idée, avant, par exemple en Afrique, c'était classique qu'une femme stérile récupère l'enfant de sa sœur, par exemple. C'est donc une autre façon de gérer le problème. Donc, ou de son frère, enfin bon, suivant les... Donc, voilà le premier rapport social que je voulais éclairer. Le deuxième rapport social que je vais éclairer, c'est ce qu'on appelle en sociologie le genre. Alors, je sais que vous arrivez au bout d'un cycle, donc vous avez sans doute entendu parler du genre. Bon, mais comme il y en a qui étaient sans doute pas, qu'on n'a pas que le genre, c'est un monde et que tout le monde a son point de vue... Donc, je vais dire, moi, ce que je vais entendre ici par système de genre. Donc, je veux dire par là que je ne vais pas, évidemment, si ça vous intéresse, j'y reviendrai, mais je ne vais pas ici vous présenter les différentes problématiques de genre qui sont aujourd'hui sur le marché. Il y a des débats très, très virulents sur ces questions. Je vais prendre un point de vue, bon, qui est un point de vue constructiviste, qui est le point de vue des sociologues. Mais dans cette grande famille des constructivistes, il y a beaucoup de possibilités. Donc, je vais prendre une possibilité. Si vous voulez qu'on en discute, on en rediscutera. Donc, voilà moi ce que j'appelle un système de genre. J'appelle un système de genre, je l'ai même noté quelque part, un système social qui construit une hiérarchie binaire. C'est-à-dire que je considère que le masculin, à la suite de beaucoup d'autres sociologues, etc. Donc, je considère que dans notre société existe un dispositif social, hiérarchique, qui catégorise des individus en deux, le masculin et le féminin. Alors vous allez me dire, mais bien entendu, il y a des hommes et des femmes. Eh ben non, c'est pas aussi simple. Il n'y a pas aujourd'hui, scientifiquement, c'est comme il n'y a pas des blancs et des noirs. Non, c'est pas aussi simple. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas non plus de façon, évidente, une catégorisation de l'humanité en deux lots, d'un côté les hommes, de l'autre côté des femmes. Donc le point de vue que je soutiens, si vous l'entendez pour la première fois, qui est peut-être un point de vue un peu aride, est que c'est la société qui produit une division en deux sous-catégories, enfin deux catégories, hommes et femmes, et je soutiens aussi l'idée que les attributs des hommes et des femmes sont socialement construits, donc sont pas du tout des données de nature. Bon, on connaît la phrase de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, ou celle de Whiting, on ne naît pas femme, donc on ne le devient pas nécessairement. Et donc, deux catégories, avec un dispositif hiérarchique, c'est-à-dire que dans notre société, dans nos sociétés, on a affaire à une domination masculine. Je ne dis pas ça non plus pour dire que les hommes sont des méchants et les femmes sont des gentilles. C'est des rapports sociaux. Je suis une femme blanche et je suis imbriquée dans d'autres rapports sociaux que les rapports hommes-femmes. Bon, donc on est tous imbriqués dans des rapports sociaux et loin de moi l'idée de jeter l'anathème sur l'un ou l'autre. Simplement, de fait, les rapports sociaux sont ainsi. Donc ça, c'est le premier volet que j'entends comme système de genre. Et le deuxième volet concerne, puisqu'ici on parle aussi de sexualité, concerne la norme, ce qu'on appelle l'hétéronormativité, c'est-à-dire l'injonction ou la norme d'une hétérosexualité reproductive. Et donc évidemment ici, on va le voir très clairement dans la fécondation in vitro et dans les techniques qui sont en cours ici. Donc hétéronormativité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une injonction sociale à préférer l'hétérosexualité à l'homosexualité et qu'il y a une injonction sociale à aller vers l'alliance entre hétérosexualité et reproduction. Donc il y a une pression sociale pour faire des enfants et pour faire des enfants dans un cadre hétérosexuel. Je suis un peu brutale, hein, je suis désolée, je ne sais pas du tout où je suis, mais j'y vais carrément, et puis on discutera. Alors, par rapport à ce système de genre que j'analyse de cette façon, je considère que la mise en œuvre des techniques de reproduction actuelles sont à la fois en conformité avec cet héritage et à la fois produisent des décalages par rapport à ce système de genre. Alors vous voyez que là aussi je prends position, c'est-à-dire que mon deuxième point de vue, qui est un point de vue optimiste, c'est qu'un système n'est pas un système rigide, c'est-à-dire que le système ne se reproduit pas à l'identique. Et que donc il y a une histoire, il y a une historicité, il y a une dynamique dans les rapports sociaux, et que donc on peut infléchir les rapports sociaux d'un côté ou de l'autre. C'est évidemment lié à ma propre posture, je pense qu'on peut contribuer à transformer le monde. Bon. Donc, conformité de l'héritage. Bon, ben, par exemple, ce sont les femmes qui sont désignées socialement comme étant responsables de la stérilité. Alors comment ça se met en place dans ces fameuses techniques de reproduction ? Eh bien par exemple, la fameuse Leslie Brown, la première, donc pour qui une fécondation in vitro a été réussie, elle le dit clairement quand on lui dit « Mais est-ce que vous saviez à quoi vous alliez vous attendre ?»« Ah non, je savais pas, mais la seule chose qui m'importait, c'était avoir un enfant. » Donc il y a une espèce d'aveuglement sur le reste. La seule chose qui compte, c'est faire un enfant. Le reste, peu importe. Voilà, par exemple, dans les dossiers de fécondation in vitro, des choses que j'ai pu lire qui montrent à quel point des femmes, sont disponibles pour des parcours, y compris très éprouvants. Voilà quelques extraits de lettres. C'est vraiment une très dure épreuve que de vivre sans enfant. Une autre, c'est une épouvantable épreuve. C'est une situation cauchemardesque. C'est un parcours du combattant.
Je tiens à adresser mes plus vifs et sincères remerciements à vous, docteur, et à toute votre équipe pour tout le sérieux, le soutien, la gentillesse et la patience dont on a fait preuve à mon égard. Consciente de la nécessité de poursuivre avec acharnement cette thérapeutique, je tenais à vous faire part de mon affaiblissement physique. Consciente dès le départ de la contrainte, de la lourdeur et de la rigueur de ce traitement, je tiens absolument à le poursuivre. J'ai été très affectée tant sur le plan physique que sur le plan psychologique, mais je n'abandonnerai certainement pas cette chance qui m'est offerte par vous, docteur, et votre équipe. Donc on voit très clairement à quel point c'est à la fois une épreuve très lourde et à la fois que cette épreuve très lourde est acceptée et qu'il faut continuer. Et que c'est une nécessité. Donc c'est ce que j'appelle une injonction sociale, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix de faire ou de ne pas faire, évidemment. Autre conformité à l'héritage masculin-féminin, donc au fait que c'est les femmes qui doivent faire face, la mise en œuvre de l'ICSI. Est-ce que vous savez ce que c'est l'ICSI, la micro-injection ? Donc maintenant, donc au départ, on avait des fécondations in vitro. Vous savez à peu près ce qu'est une fécondation in vitro, j'en parle. Oui, ça va, c'est clair. Alors, on avait, il y a donc dans les années 80, fin du XXe siècle, on avait donc fécondation in vitro, insémination artificielle. Et puis, dans le cas où l'homme est très très peu fertile, voire quasiment stérile, on a inventé quelque chose qui s'appelle la micro-injection ou l'ICSI, c'est-à-dire qu'on prélève quelques spermatozoïdes et qu'on les injecte directement dans l'ovocyte. D'accord ? Au lieu de... Donc, du coup, ça marche... Enfin, on peut avoir un sperme très déficient, entre guillemets, et utiliser que quelques spermatozoïdes. Alors, quelle est la conséquence de cette histoire ? Déjà précédemment, dans la littérature médicale, on pouvait lire des choses du style la meilleure façon de tester la fécondance du sperme, c'est de faire une fécondation in vitro. Alors, est-ce que vous traduisez en termes clairs ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour savoir si l'homme est fertile ou pas, eh ben, le test le plus pertinent, c'est de faire une opération sur sa femme. Puisque la fécondation in vitro, c'est une opération sous anesthésie générale. Donc, inverser la situation et dites, pour savoir si une femme est fertile, on va faire une opération sous anesthésie générale au mari. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de maris candidats. Et là, la chose précédente s'est faite très... Enfin, tout à fait logiquement. Alors maintenant... Elle est carrément encore plus claire, puisque donc, quand le mari est infertile, peu fertile, on fait une ICSI, donc une micro-injection. Donc, on fait quoi ? On va chercher quelques spermatozoïdes chez l'homme et on fait une fécondation in vitro à la femme. Donc, mari peu fertile, femme sans éventuellement de problème, opération sur la femme. Et alors, à l'époque, je m'étais dit, oui, mais on va quand même faire des opérations chez l'homme, donc ça va rétablir la balance, si on peut dire, puisqu'on va aller chercher les fameux spermatozoïdes. Non, en fait, on les cherche par opération, par ponction épididymaire, par etc., que dans des cas, peu de cas, donc entre 5, autour de 5% des cas. Donc, dans la majorité des cas, on fait une opération sur la femme. Avant, on faisait les inséminations artificielles donneurs. Et donc, ça, extrêmement, ces dernières années, ça a chuté, puisqu'on peut faire une opération qui permet d'avoir le spermatozoïde et donc les gènes, etc. Donc, voilà sur la reproduction, je dirais, du système de genre homme-femme. Alors, évidemment, sur la question de la sexualité et de l'hétérosexualité, on a là aussi une conformité à l'héritage. Alors, la première conformité qui m'a beaucoup amusée quand j'ai fait ce travail, c'était les questionnaires des médecins aux hommes et aux femmes sur leur sexualité quand ils venaient pour fécondation in vitro. Ou insémination artificielle, enfin là c'était pour tout, tout venant. Donc au départ le questionnaire était identique pour les hommes et pour les femmes. Et puis petit à petit le questionnaire s'est spécialisé pour les hommes et pour les femmes. Alors déjà le titre, ça va vous faire sourire, pour les hommes ça s'appelle activité sexuelle et pour les femmes ça s'appelle vie sexuelle. Aux hommes, on demande s'ils sont satisfaits. Aux femmes, on ne demande pas si elles sont satisfaites. On s'intéresse à la fréquence des rapports sexuels. Et à cette question, on pose la question aux hommes, pas aux femmes. Bon. Donc, on voit là apparaître en filigrane toute une conception de la sexualité humaine qui est différenciée chez les hommes et chez les femmes. Donc, on voit apparaître chez les femmes, une vie sexuelle orientée vers la reproduction. Chez les hommes, on voit apparaître une activité sexuelle qui peut être multipartenaire, une importance à l'érotisme. Bon, on voit se dessiner derrière les représentations médicales de la sexualité, les représentations conformes à l'héritage très classique de l'hétérosexualité reproductive. Alors, quand j'avais demandé à l'équipe médicale, mais enfin, pourquoi vous demandez aux hommes la fréquence des rapports sexuels et pourquoi vous ne la demandez pas aux femmes ou à personne? Ils m'ont dit oui, mais vous comprenez, pour les hommes, ça nous renseigne sur l'imprégnation hormonale. Ben, à ce moment-là, c'est les femmes aussi. Et de toute façon, si on a ce genre de vision de la sexualité, et de toute façon, puisque vous faites après les prélèvements pour savoir le pourcentage d'hormones, pourquoi faire ça? Bon, enfin, ceci étant, c'est très clair que derrière ces questionnaires, il y a une représentation sociale de la sexualité. Au passage, du reste, il y a une représentation sociale tout court, parce que, par exemple, il y a des gens qui viennent là, et par exemple des immigrés, donc ça c'est une question bien différente, mais des personnes qui sont séparées toute l'année, qui se voient un mois par an, et qui viennent faire une fécondation in vitro. Donc on voit quand même des représentations de la reproduction humaine qui sont quand même particulières dans notre monde. Bon, sur la question de l'hétérosexualité, bon, sans doute vous êtes au courant des lois. Alors avant que la loi arrive, les médecins déjà refusaient les lesbiennes, refusaient les homosexuels par exemple. Donc avant que la loi sorte, hein, on pouvait lire dans les dossiers « Femme célibataire, pas de conjoint, veut un bébé avec la banque de sperme », on explique que ça n'est pas possible. Donc les médecins avaient déjà tranché dans les faits pour refuser les femmes lesbiennes ou célibataires. Et la loi a confirmé la chose, puisqu'en France, il faut donc un couple hétérosexuel marié ou faisant la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans. Ce qui n'est pas le cas dans les pays voisins, et ce qui fait que notamment les lesbiennes vont à Barcelone et en Belgique. Bon, on pourra en reparler parce qu'il se trouve que la dernière conférence que j'ai faite, on était 2 conférencières et l'autre était une conférencière de la PGL, donc j'ai appris beaucoup de choses sur cette affaire. Alors, donc voilà au niveau de la conformité, si on peut dire, hein, on pourrait dire d'autres choses, mais voilà sur la conformité de l'héritage. Mais on a aussi des turbulences. Alors pourquoi on a des turbulences? Ben, la première turbulence, c'est que même si on a un montage extérieur qui fait que on a un couple hétérosexuel, dans les faits, la fécondation in vitro dissocie totalement la sexualité de la reproduction. Et donc, on a un homme qui se masturbe, une femme qui est opérée, et donc, on n'a pas une hétérosexualité reproductive au sens d'un couple hétérosexuel qui fait l'amour et qui fait un môme. Donc, dans les faits, même si dans le discours et dans le montage, on a ça, dans les faits, on a autre chose. Je dirais même, je ne sais pas, les pratiques dans les hôpitaux, mais dans l'hôpital que j'ai observé, l'insémination artificielle se faisait là aussi avec les 2 personnes séparées. L'homme d'un côté, traitement du sperme, etc., et la femme, quelques heures après, de l'autre. Donc on n'avait même pas le couple présent au moment en question. Bon, il y a des hôpitaux où le couple est présent à ce moment-là, mais bon. Autre chose qui est claire aussi, c'est que d'un point de vue scientifique, on s'est rendu compte tout de même de la place de l'homme dans la reproduction. Et donc à l'hôpital, il y a une espèce de compétition entre deux rapports sociaux, le rapport médical et le rapport de genre, et là c'est le rapport médical qui gagne. C'est-à-dire que se rendant compte que les hommes sont aussi responsables d'une stérilité du couple, enfin d'une infertilité du couple, les médecins examinent les femmes et les hommes, comme ils le disent dans leur littérature. En général, d'abord les femmes, si on trouve quelque chose chez les femmes, bon, on fait plus ou moins chez les hommes, mais enfin, quand même, on examine les hommes. Et moi, j'ai assisté à des scènes assez épouvantables dans les couloirs d'hôpital. Des hommes qui disaient « Non, 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 c'est ma femme qui est stérile, moi j'y suis pour rien », etc., et qui ne voulaient pas être examinés. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière, mais ce qu'il y a derrière, c'est aussi un héritage archaïque qui est que chez l'homme, la stérilité est associée à l'impuissance, à la non-virilité, ce qui n'est pas le cas chez la femme. Et donc, pour un homme, accepter une infertilité ou une hypofertilité, il y a quelque chose de l'ordre d'une remise en cause de sa virilité. Donc c'est quelque chose de très difficile, alors que c'est tout à fait une association archaïque, c'est pas du tout une association scientifique, cette histoire. Donc là, il y a une remise en cause de cet héritage archaïque. Et puis, évidemment, avec cette médicalisation, il y a de nouvelles figures qui deviennent visibles, qui ont toujours existé dans nos sociétés, mais qui deviennent visibles. Le donneur de sperme, la donneuse d'ovocytes, les trios où on a une mère génétique, une mère porteuse et une mère accoucheuse. Alors même si en France les choses ne sont pas légales, etc., etc., n'empêche que au niveau international, on sait que tout ça a lieu. On sait que une femme ménopausée peut faire des enfants. Bon, il y a tout un tas de choses qui sont devenues visibles. Alors, quand je dis que ça a toujours existé, sous l'Empire romain, on avait déjà des locations d'utérus. Donc les mères porteuses existaient déjà. Mais on a une visibilité différente et par exemple, ça se voit quand on discute avec les psys à l'hôpital. Ils disent, oui, il y a donc les premières 80, donc il y a quasiment 30 ans maintenant. Oui, la première a eu lieu il y a 30 ans. Les couples avaient des réticences à s'engager dans ce type de filière. Et maintenant, presque tout le monde connaît quelqu'un qui a eu son beau-frère, sa belle-sœur, sa belle-mère, sa voisine, sa collègue de travail, qui a fait une insémination artificielle, une fécondation in vitro. Donc, c'est devenu visible socialement. Et donc, évidemment, ça change la donne. Donc, voilà pour le genre. Dernière scène que je veux mettre en évidence, c'est aussi une scène sociale et une scène culturelle. Alors, pourquoi une scène sociale ? Sociale au sens de... Tout ça, c'est des scènes sociales, mais une scène sociale au sens de l'appartenance, de la hiérarchie sociale. Hein, d'à quel endroit est-ce qu'on est... Alors, premier aspect que j'aimerais développer là-dessus, c'est l'appartenance sociale et les inégalités par rapport à ces techniques de reproduction. J'ai pu observer plusieurs types d'inégalités. Alors, premier type d'inégalité, l'accès. En France, l'accès est gratuit. Donc, on pourrait dire toutes les catégories sociales ont accès à la fécondation in vitro, l'insémination artificielle, etc. Non. Parce que, en tout cas dans les dossiers que j'ai examinés, la sélection ne se fait quasiment pas sur des critères médicaux. J'ai vu très très peu de cas de personnes refusées pour critères médicaux. Mais se fait sur d'autres... raison, pour d'autres raisons. Alors je reprends mes statistiques. Donc j'ai étudié par exemple les personnes qui ont été refusées pour faire une fécondation in vitro, qui ont arrêté le traitement, c'est-à-dire qui sont venues et qui ont arrêté. Alors je me suis rendu compte qu'il y en avait à peu près un quart qui... Est-ce que je vais retrouver mon petit tableau ? Attends. Bon, je le sais. Voilà. Donc, bon, il y a quelques grossesses spontanées, donc grossesses sans traitement médical, d'accord. Après, il y a un quart qui sont liés aux interruptions cliniques. Donc là-dedans, c'est un cas, une contre-indication médicale, et tous les autres sont réorientés. Donc c'est pas fécondation in vitro, ça va être stimulation ovarienne, ça va être insémination artificielle. On a un quart, c'est le couple. Le couple qui déménage, qui divorce, etc. Un quart, c'est on propose un don de sperme ou un don d'ovocyte. Et les gens refusent. Alors ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, je pense qu'on proposerait l'ICSI, donc je ne sais pas exactement. La recherche sur cette question va commencer le mois prochain, donc je n'en sais rien. Et dernier quart, refus de l'équipe médicale. Mais refus de l'équipe médicale pour des raisons qui ne sont pas des raisons médicales, qui sont pour des raisons soit psychologiques, soit des raisons de traduction. C'est-à-dire les personnes ne parlent pas français, et les médecins disent a besoin d'un interprète, seul l'enfant parle français, etc. Donc refoulé. Alors quand on voit les choses de l'extérieur, évidemment dans un premier temps on bondit, on dit mais évidemment on va sélectionner, on va refuser un certain nombre de clientèles. Après quand on réfléchit, on comprend bien pourquoi les médecins font ça. On comprend bien que les médecins, par rapport à une technique très pointue, ils se disent, si la personne, tous les jours, il faut téléphoner les taux d'hormones, les trucs et les machins, donc, si on se comprend pas, nous, comme techniciens, on va être complètement perdus. On n'a pas le temps, etc. Donc, je comprends bien le point de vue des médecins comme professionnels. Enfin, je le comprends au sens, je dis pas que je suis d'accord, mais je le comprends. Mais il est évident que d'un point de vue de citoyenne, je peux pas accepter ce type de discrimination qui est une discrimination déguisée et qui n'apparaît pas enfin je sais pas comment expliquer ça, mais ça n'est pas explicite, c'est-à-dire que c'est parce que j'ai eu accès aux dossiers médicaux que je l'ai lu, sinon évidemment c'est pas la raison qu'on va donner aux personnes, enfin, on va pas le dire comme ça, ça me paraît évident. Donc il y a là une première question. Alors une autre question, donc là je dirais c'est la production de l'inégalité par l'institution médicale. Il y a une autre production d'inégalité qui est liée, si on peut dire, à la situation sociale des personnes. Alors pourquoi ? Eh bien parce que de mon point de vue, ce recours à la fécondation in vitro accentue les inégalités de position sociale des femmes. Pourquoi ? Je me suis demandé d'abord s'il y avait... si toutes les catégories sociales étaient représentées. Oui, à peu près, à l'hôpital, à peu près de façon identique à la population du département, donc on peut dire que c'est OK. Mais le calendrier de consultation n'est pas le même. C'est-à-dire que les femmes sans enfants, chômeuses, sans activité professionnelle, vont beaucoup plus vite, sont beaucoup plus pressées de faire une fécondation in vitro. Et donc, et elles le font plus jeunes, c'est-à-dire que les femmes au chômage, intérimaires, ouvrières, vont éventuellement consulter, mettons, à 25 ans. Les femmes cadres vont consulter après 30 ans, disons à 35 ans. Donc vous voyez, les conséquences sont tout à fait différentes. Parce que quand on commence une procédure à 25 ans, on a le droit en France d'en avoir 4 remboursés, plus tous les transferts, donc ça peut durer 7-8 ans. Donc ça veut dire 27 et presque 10, on arrive à 35 ans. Autant dire que c'est pas le moment de démarrer une carrière dans le monde compétitif tel qu'il est. En revanche, si on est une femme cadre à 35 ans, qu'on a déjà une place, entre guillemets, si on a un môme, à peu près un quart des personnes ont un môme à la sortie, après plusieurs essais. Donc, si on est dans le quart qui a un môme, on aura cumulé carrière et maternité. Mais si on n'en a pas, on aura toujours un travail. Ce qui n'est pas le cas de l'autre configuration. Donc, de mon point de vue, c'est un système qui ne va pas dans le sens de l'égalité sociale. D'autant plus que, par exemple, je peux prendre un dernier cas, qui est le cas des pionnières. J'ai regardé quelles étaient les femmes qui avaient fait les premières tentatives dans l'hôpital que j'ai regardé. Eh bien, les femmes qui ont fait les premières tentatives sont surreprésentées les femmes qui travaillent à l'hôpital. Mais dans les femmes qui travaillent à l'hôpital, pas du tout les médecins. Non, les cuisinières d'hôpital, les aides-soignantes, les secrétaires, donc le bas de la hiérarchie des hôpitaux. Donc, je dirais, qui a fait les cobayes avec les traitements les plus violents, qui ont répété pendant 10 ans, voire 15 ans ces traitements, c'est pas le haut de la hiérarchie sociale. C'est de fait, l'institution médicale a produit ses cobayes au sein de sa hiérarchie et au bas de la hiérarchie. Alors, dernière petite chose que je voulais dire, c'est la question de l'appartenance culturelle. Alors, je vais vous raconter deux petites histoires. La fécondation in vitro se répand dans le monde entier, mais la façon dont elle se répand correspond vraiment à des montages culturels. J'ai été invitée en Iran, à Téhéran, à une conférence, à un colloque à l'hôpital de Téhéran sur la fécondation in vitro. C'était très étonnant. Alors c'était un colloque avec essentiellement des médecins, hein, quelques sociologues. Bon, le colloque a débuté par un hymne, je sais pas, on s'est levé, et puis après on a eu une projection de film. C'était étonnant. Donc on avait les sourates du Coran et on avait les spermatozoïdes et les ovules. Donc en fait, les dernières découvertes scientifiques étaient illustrées par les sourates du Coran. Et on nous a distribué des papiers en nous demandant comment enseigner la reproduction à l'école. Et donc, quelle formulation il fallait prendre pour faire une formulation conforme au Coran. Et donc, on nous a proposé plusieurs formulations qui combinaient à la fois l'accord avec le Coran et à la fois qui correspondaient aux nouvelles découvertes. Donc, c'était un montage culturel qui, pour nous, était totalement étonnant. Bon, dans un pays comme la France, on n'enseigne pas les choses comme ça. Bon. Ceci étant, donc, la fécondation in vitro existe, se répand à l'hôpital de Téhéran, etc. Autre montage, Israël. Alors là aussi, donc, ça se développe beaucoup. Ça se développe beaucoup, notamment parce que Israël veut fabriquer des enfants juifs. Et alors là, ce qui est très étonnant, c'est que dans ce pays, contrairement à la France, les femmes lesbiennes ont le droit, ont accès aux techniques de reproduction. Mais avec, donc là aussi, avec un montage qui tient compte de la loi juive, de la loi halakhique. Et donc, par exemple, il faut que le donneur de sperme, dans le cas donc d'une femme lesbienne, c'est possible, mais le donneur de sperme ne doit pas être juif si possible. Il vaut mieux qu'il ne soit pas juif, parce que sinon il y aurait adultère. Alors que s'il n'est pas juif, il n'y a pas adultère. Ou bien, si vous voulez, je vous cite ça non pas pour discréditer les autres montages, mais parce que quand c'est d'autres montages culturels, on se rend compte à quel point c'est des montages culturels. Quand c'est le nôtre, on s'en rend moins compte parce que on est immergé dans un certain nombre de représentations, et donc on se rend pas compte à quel point c'est des représentations. Donc le fait qu'en France, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas possible pour des femmes lesbiennes, enfin sauf de façon clandestine. Alors que là, par exemple, c'est possible pour une femme lesbienne, à condition que, alors, autre montage curieux en Israël, il faut qu'il y ait une femme, une religieuse, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, qui soit là dans le service pour vérifier que qu'on ne se trompe pas de sperme. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez, une bénédictine à côté de la laborantine qui vérifie que on ne se trompe pas d'éprouvette. Pourquoi pas ? Mais disons que, voilà par exemple le montage, et il faut aussi qu'il n'y ait pas de sang, parce que s'il y a du sang, c'est pas bon. Donc on fait venir le rabbin pour savoir s'il y a eu un problème, si ça piquait, etc. Mais par contre, donc on a ces aménagements, mais c'est possible pour une femme célibataire et une femme explicitement lesbienne aussi. Donc vraiment, je trouve que on voit vraiment à quel point c'est des scènes culturelles, sociales, etc. Alors dernier point, et puis je m'arrêterai là pour conclure, enfin pour ne pas conclure plutôt. Je dirais que de mon point de vue, on voit qu'il y a plusieurs rapports sociaux qui sont emmêlés dans ces questions de sexualité, reproduction, genre, situation sociale, etc. Et les choses bougent plus ou moins en fonction de, je dirais, la compétition de différents rapports sociaux. Alors, je vais vous donner trois exemples pour vous montrer comment des choses peuvent éventuellement bouger ou pas. Quelles sont les alliances qui font que des choses bougent dans un sens ou dans un autre, qu'on soit d'accord ou pas. Première question, enfin une des questions qui a fait problème, c'est la question de l'âge. Dans un certain nombre d'hôpitaux, il est indiqué qu'à 40 ans, les femmes, on veut plus leur faire quoi que ce soit. Et donc les médecins m'ont dit, il y en a qui ont dit oui, puisque c'est comme ça, on va faire une banderole sur l'hôpital en mettant que femme de plus de 40 ans, vous êtes, je sais pas quoi, enfin vous êtes finie, etc. Or cette barrière de l'âge, alors c'est quelque chose qui montre l'inégalité entre hommes et femmes parce que la barrière c'était 40 ans pour les femmes, 55 ans pour les hommes. Or la fécondité actuelle c'est 45 ans les femmes et 55 ans les hommes. Je suis claire quand je dis ça, c'est-à-dire qu'actuellement, si on ne parle pas de fécondation in vitro, etc., globalement, les femmes arrêtent à 45 ans de faire des enfants et à 55 ans, les hommes. C'est une moyenne, bien entendu, hein, donc il y en a un peu après, mais c'est une moyenne. Donc, en fait, en mettant le seuil à 40 ans pour les femmes et à 55 ans pour les hommes, on s'aligne sur le seuil observé actuellement pour les hommes et on rétrécit la possibilité pour les femmes. Ce qui a des incidences puisqu'on sait bien que le moment où la compétition au niveau de la carrière est la plus forte, c'est avant 40 ans. Donc on a un étau pour les femmes qui doivent tout réussir à la fois alors que le calendrier pour les hommes est plus étalé. Mais sous la pression d'une part de certains médecins qui voulaient étendre leur clientèle, d'autre part de femmes cadres qui voulaient aller au-delà de 40 ans, d'autre part de médecins généticiens comme Edwards qui veulent expérimenter sur des femmes ménopausées et qui montrent que sur des femmes ménopausées avec dons d'ovocytes de femmes plus jeunes, ça marche aussi bien, on a là des choses qui ont bougé au niveau du calendrier. Et en France, alors je ne sais pas où ça en est exactement là ces jours-ci, enfin je dirais ces mois-ci, mais il y a eu une attaque au tribunal administratif sur une question de procédure et donc il y a un vide juridique sur l'âge, sur une législation concernant l'âge. Donc les hôpitaux n'ont pas le droit de refuser disons l'accès à une fécondation in vitro s'il n'y a pas de loi qui dit qu'à 40 ans c'est pas possible pour les femmes. Et donc là de fait il y a eu, avec association d'une couche des médecins, avec association d'une couche de femmes sans doute les plus revendicatives, les femmes cadres, etc., il y a eu de fait une modification de la réglementation. Deuxième chose, bon c'est ce que j'ai indiqué tout à deuxième chose sur la question des dons de gamètes. Bon, on peut dire beaucoup de choses. D'une part que le don de sperme était plus facile que le don d'ovocytes. On pourra en rediscuter pourquoi. Mais qu'aujourd'hui, finalement, le don de sperme a presque disparu au profit de l'ICSI. Mais que le don de sperme reste évidemment l'un des moyens privilégiés dans la question des couples homosexuels. Et que, avec toutes ces histoires, Au niveau international, il y a des endroits où l'homoparentalité est non seulement est reconnue, mais presque plus que reconnue, comme conséquence d'une mobilisation collective. Au Québec, est reconnue ce qu'on appelle la comaternité, on appelle les co-mères, c'est pas très joli, mais donc si une femme lesbienne est enceinte, sa compagne a un droit. Si vous voulez, si elle se sépare, elle garde le droit de visite sur l'enfant. C'est clair, hein? Et donc, les hommes sont en train de demander la même chose, du coup, au Québec, enfin, les couples d'hommes homosexuels. Donc là, on voit aussi que sous la pression de mobilisation collective, les représentations et les pratiques changent. Donc, même si c'est au Québec, c'est évident que les choses bougent. Bon. Troisième question. La question des inégalités sociales entre femmes. Alors, je vous ai indiqué tout à l'heure que je considérais que la fécondation in vitro pouvait avoir un impact de renforcement d'inégalités entre cadres et ouvrières, mais j'irai même plus loin. C'est-à-dire que la question que je me pose, et sur laquelle je n'ai pas de réponse, c'est qu'on assiste aujourd'hui à peut-être une différenciation des femmes peut-être plus grande qu'à 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que l'injonction de maternité est moins forte sur certaines femmes cadres, ou dit différemment, certaines femmes peuvent inventer d'autres parcours, essayer une fécondation in vitro à 35 ans, et si ça ne marche pas, continuer leur carrière, ou ne pas faire d'enfant du tout. Et il y a une espèce d'autorisation sociale pour qu'une partie des femmes, une petite couche de femmes, ne soit pas mère. Et la contrepartie de la non-maternité de cette couche de femmes, est-ce que c'est que d'autres femmes sont pressurées pour s'occuper de la production domestique, donc la fabrication d'enfants, ce qu'on appelle le care au niveau ce qu'on appelle le care, c'est-à-dire les femmes immigrées qui viennent en France pour s'occuper des enfants, la cuisine, le ménage, etc. Et donc, est-ce que est-ce qu'on n'est pas en train de construire des femmes à deux vitesses, enfin je sais pas comment dire, des femmes aristocrates entre guillemets, qui peuvent se payer le luxe d'une vie plus égale avec des hommes, et en contrepartie d'autres femmes qui sont encore moins égales à ces femmes-là. Je reste sur l'interrogation de la production d'inégalités dans notre société. Je vous remercie. Je suis ouverte à toute question, bien entendu.
Merci Laurence. Des questions dans la salle ? Peut-être. Non, on a besoin du micro.
En fait, j'avais deux questions. Déjà, quel est le pourcentage de naissances artificielles, disons ? Et j'aurais voulu avoir des renseignements sur la position de l'Église dans ce domaine en France.
Bon, je suis pas spécialiste du lien avec les religions. Hein. Alors sur le pourcentage de naissances, par fécondation in vitro, à peu près 1 sur 100. Enfin, entre 1 et 2%. Ce que je trouve beaucoup. Enfin, beaucoup. Juste la fécondation in vitro. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est pas beaucoup au sens moral. J'ai pas de. Mais ce que je veux dire, je dis ça parce que quand j'ai commencé ma thèse en. Oh là là là, je sais plus, dans les années 90 sur cette question, mon directeur de thèse m'a dit mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet? Mais ça concerne personne, mais ça n'a aucun intérêt, mais etc. etc. Bon, moi j'ai dit de toute façon, j'ai envie de faire une thèse là-dessus, point. Donc je fais la thèse là-dessus. Et après quand j'ai dit, mais enfin quand même, on en est à près de 2% là, enfin 1, c'est 1,5 et quelques pourcents à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a un môme sur 50 qui est né par fécondation in vitro, et je ne parle pas des inséminations artificielles. Ça veut dire que sur une ou deux classes de lycée, il y en a un qui est né comme ça, c'est pas rien. Ça fait pas peu. À ce propos, une toute petite anecdote, c'est arrivé comme ça à ma mère, qui, il y avait un gamin du voisinage qui, je sais pas, qui faisait des bêtises dans la haie Alors ma mère lui dit attention, arrête, je vais le dire à ton père. Et le gamin répond, j'ai pas de père, je suis né dans une éprouvette. Donc c'est vrai que c'est pas une représentation qu'on a, mais bon, donc voilà. Alors sur la question de la position de l'Église, je sais pas. Alors il y a des positions différentes entre l'Église catholique, l'Église protestante, les orthodoxes, les juifs, les musulmans. Ils ont tous des positions différentes et c'est des choses compliquées sur les donneurs, sur les pas donneurs. Et honnêtement, je suis pas capable de vous répondre. Je sais que bon, l'Église protestante est plus par rapport à l'Église catholique, si on regarde chez les chrétiens en France, et comment dire, plus ouverte entre guillemets. Mais je crois que l'Église catholique est pas contre, mais il y a des conditions, il y a certaines conditions et je sais pas exactement les conditions. Il y a un livre qui est assez bien, qui en parle, c'est le livre de Friedman. Et je crois que ça s'appelle Dieu, la médecine et l'embryon, quelque chose comme ça. Et là-dedans, il parle des... Parce que justement, dans son service, donc, il a mis en place une consultation... je regarde si par hasard j'ai mis Friedman quelque part dans mes... par ici, dans mes références. Mais dans sa consultation, il en... Oui, c'est ça, exactement. Friedman René, 1997, Dieu, la médecine et l'embryon, Paris, Odile Jacob. Et donc, je me souviens que là, il explique, parce qu'il a justement, comme il avait à résoudre un tas de problèmes dans son service, il a, dans son service hospitalier, il a organisé une consultation avec des référents des différentes religions pour pouvoir résoudre les problèmes qui se proposaient sur les cas, sur les subtilités d'interprétation. Voilà.
Toujours pas de question. Moi, je voulais savoir davantage...
Donc moi, c'est une petite question sur... vous parlez beaucoup, en fait, des techniques d'insémination artificielle, mais moi, c'est un truc qui n'a rien à voir. C'est parler des autres techniques médicales qui ont plus ou moins fait avancer tout ce qui concerne la mise d'enfants au monde, plus ou moins. C'est-à-dire genre la péridurale ou toutes les techniques qui consistent à allaiter son gamin avec un biberon, les couveuses, tout cet aspect des choses qui changent réellement le rapport qu'il y a entre la mère et l'enfant, qui peut-être après peut découler sur... un changement des rapports sociaux qu'il y a dans la famille. Voilà. Je voulais savoir si vous avez deux choses à dire par rapport à ça. Parce que par rapport à votre exposé, j'ai bien compris que vous parlez beaucoup des... Comment les normes ont plus ou moins été recréées avec une nouvelle technique. On fait que perpétrer plus ou moins le modèle dominant qui existe. C'est ce que j'ai compris. Mais par rapport à la péridurale, c'est quelque chose qui est quand même très, très accepté en ce moment. Et je voudrais savoir réellement s'il y a apparemment peut-être des contre-indications médicales qui feraient que ça ferait vraiment des modifications sur les rapports entre l'enfant et sa mère, tout simplement. Voilà.
J'ai pas de réponse, comment dire. J'ai pas à avoir de point de vue personnel sur cette question. Bon, sur cette question générale, c'est-à-dire la technicisation de l'accouchement, de la médicalisation de la société, il y a un numéro spécial des Cahiers du Genre là-dessus, sur la question de l'offre technologique et l'accouchement. J'ai quelque part aussi le... Ouais, dans les Cahiers du Genre. Je crois que c'est le numéro 25, il me semble me souvenir. Bon, enfin, disons, je pourrais vous le retrouver. Je crois que c'est le numéro 25. Donc, voilà, il y a un numéro spécial là-dessus. Alors, après, je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les différentes techniques. Il y a eu des études, par exemple, sur... alors, il y a la question de la péridurale. Il y a la question, faut-il accoucher à l'hôpital, faut-il accoucher à la maison. Par exemple, en Hollande, on accouche beaucoup plus à la maison. Mais c'est aussi lié au fait que, s'il y a un pépin, on peut aller plus vite à l'hôpital. On a aussi fait des études sur comment s'appelle les accouchements comment on appelle ça, les accouchements avec opération. Les césariennes, voilà, les césariennes. Donc il y a des hôpitaux où on fait plus de césariennes, il y a des hôpitaux où on fait moins de césariennes, il y a des pays où on fait beaucoup de césariennes. Pourquoi les couples veulent une césarienne? Bon, donc par exemple, il y a une Canadienne qui a travaillé là-dessus, bon, Maria de Coninck. Bon, donc toutes ces questions sont des vraies questions sur lesquelles je suis pas, j'ai pas d'avis particulier. La seule chose que je pourrais dire, c'est que à un moment donné, il y a une alliance qui se fait entre des techniques, des individus. Il y a un réseau qui se crée, ce que j'ai montré par exemple tout à l'heure sur les intérêts des différents protagonistes. La fécondation in vitro apparaît pas par hasard. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'intérêts convergents. Il y a des biologistes que ça intéresse, il y a des médecins que ça intéresse, il y a des couples infertiles que ça intéresse, et il y a les moyens techniques de congeler du sperme. Donc tout ça fait que, ce qu'appelle Donna Haraway des cyborgs, tout ça fait qu'on a une nouvelle configuration humaine et corporelle qui arrive. Alors après, soi-même, comment on se situe par rapport à cette nouvelle configuration corporelle, ça c'est, je dirais, de l'opinion de chacun. J'ai pas d'opinion à avoir. La seule chose, j'ai une opinion personnelle, mais c'est pas le problème ici. La seule chose que je dirais, c'est que il faut être très vigilant des rapports sociaux qui se nouent autour des techniques. Je pense à ça parce que, bon, il se trouve que personnellement, je suis confrontée à la mort d'un proche actuellement, et c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que autour de la mort, on a des acteurs. On a le futur mort, son entourage, les médecins, les infirmières, et chacun a un intérêt à défendre, chacun a un point de vue. La femme veut prolonger le mari parce qu'elle veut encore le voir, la fille veut pas qu'il souffre, le garçon est loin, il veut bien venir une fois, mais il veut pas revenir 3 mois après, le médecin veut faire de l'acharnement thérapeutique ou pas, l'infirmière en a ras-le-bol de... Donc, chacun a son intérêt par rapport aux techniques qui vont être utilisées. Et donc, moi je trouve que ce qui est important, c'est d'être conscient des rapports de force qui se jouent, et par rapport aux rapports de force, de décider en son âme et conscience, voilà, ce qu'on fait, quoi. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, la péridurale, tout ça, c'est la même chose. Pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose que je veux dire, c'est pas la même chose que la mort, mais ce que je veux dire, c'est que l'usage ou non de la péridurale, par exemple, bon, il faut réfléchir, je sais pas comment dire, aux anesthésistes, aux médecins, aux proches, à la femme, voilà. Me semble-t-il. Et donc, qu'est-ce que ça met en scène? Et à partir de là, est-ce qu'on considère que c'est bénéfique pour soi ou pas? Si je peux, voilà comment je vois les choses.
En fait, vous êtes sociologue?
Oui. Démographe, oui. Sociologue-démographe.
Je vous avez un point de vue constructiviste, en fait. Mm-hmm. Et vous avez parlé tout à l'heure, au départ, vous avez mentionné l'archaïsme ou les archaïsmes. Mmh. Et je veux savoir qu'est-ce que vous, comment vous déconstruisez l'archaïsme. Ah. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'il y a à en faire? Qu'est-ce que c'est du point de vue constructiviste?
Vaste question. Qu'est-ce que j'en fais? Bon, je pense que on est, comment dire, je pense qu'il y a une construction historique et sociale des représentations et des pratiques qui concernent les attributs sexués des hommes et des femmes. Allez-y.
Mais vous pensez en termes de rapport de force ou de rapport de pouvoir?
Oui, pas seulement. Je pense aussi en termes d'attribution. C'est-à-dire que je pense que historiquement, les femmes ont été, les attributs des femmes ont été le relationnel, ont été le domestique, les attributs des hommes ont été le pouvoir politique, ont été le male breadwinner, donc l'homme qui rapporte l'argent à la maison, l'homme qui travaille à l'extérieur. Donc c'est des rapports de domination, mais c'est aussi une différenciation. Il y a une construction d'une différenciation, il y a une construction de dominant, de dominé, il y a une construction de la primauté donnée à l'hétérosexualité sur l'homosexualité, il y a une confusion pour les hommes, entre l'impuissance et la stérilité. Il y a une confusion pour les femmes entre la maternité et la sexualité. Bon, disons que tout ça, c'est un long héritage historique, social. Alors, vous me dites, qu'est-ce que je fais de cet héritage ? Les femmes guillotinées aux lames de gouge, guillotinées à la Révolution française pour avoir demandé le droit de vote des femmes. Bon, toutes ces choses-là, c'est le produit d'une histoire. Donc, qu'est-ce que j'en fais ? Moi, ce que j'en fais, c'est... il me semble que quand on commence à voir que c'est une construction sociale, que c'est pas naturel, ça change déjà beaucoup de choses. Parce que ça veut dire que ça relève de l'organisation sociale et donc de nos décisions collectives, individuelles et collectives. Et donc que ça peut être transformable. Alors quand je dis individuelle et collective, je veux dire par là que j'ai pas la prétention de penser que la sociologie est le seul regard à apporter sur l'humanité. Et je pense notamment que il est par exemple extrêmement important que les psychologues aient un travail historique sur la construction de l'Œdipe, sur la façon dont ils ont construit le masculin et le féminin, etc. Et il y a aujourd'hui des psychanalystes, des psychologues qui réfléchissent à ce que ça veut dire la généalogie du masculin, quel nouveau masculin peut être inventé. Donc je pense qu'il n'y a pas que les sociologues qui ont à travailler là-dessus, les ethnologues. Mais je pense que par exemple que Simone de Beauvoir, quand elle a dit on n'est pas femme, on le devient, ça a fait un appel d'air extraordinaire.
Mais quelle plasticité en quelque sorte y a-t-il véritablement, ça, entre un désir comme ça, un désir un peu constructiviste, un peu abstrait, quoi, et des véritables, vous parlez de pression sociale, mais il y a pas que ça, peut-être il y a une pression qui vient de plus loin aussi. Et la plasticité, en fait, elle n'est pas qu'individuelle. Enfin, je veux dire, ça se joue dans quelque chose aussi de collectif. Et c'est une forme de peut-être de pression, enfin, pas de pression sociale, mais pourquoi il y a analyser toujours les choses, une forme, c'est que par l'aliénation que, enfin, je sais pas, comme si... Qu'en réaction à quelque chose ou un peu défensif ou enfin je sais pas. Ouais.
Moi j'aimerais bien que tu précises ta question parce que je pense que je suis pas le seul à ne pas comprendre. Déjà je comprends pas bien plasticité de quoi.
Plasticité, ça veut dire transformation, quand on parlait de transformation. Et puis c'est quand on n'est pas femme, on le devient. Mmh. C'est donc, ça veut dire qu'il y a une plasticité qui est là d'entrée de jeu, sauf qu'on vous fait croire. On vous fait croire, enfin,
que c'est possible,
que c'est comme ça, donc que c'est rigide, alors que, enfin, que c'est pas rigide. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, c'est quand même un positionnement féministe que vous avez, et je le trouve, enfin.
Non, mais allez-y, je suis prête à la discussion.
Je le trouve toujours trop réactif. Mm-hmm. En même temps, il s'ancre par rapport à une réalité, par rapport à cette réalité. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il manque encore de plasticité, enfin, ou de créativité, dans le sens où on se positionne contre, mais finalement, on met toujours au centre
celui contre, tout contre, on se positionne.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre point de vue. Effectivement, je suis féministe. C'est clair, je suis féministe. Et alors, pour dire quelque chose sur la plasticité, est-ce que la plasticité est possible ? Oui, alors je dirais que ma propre histoire individuelle et collective le montre clairement. Et bon, on commémore mai 68. Enfin, avant mai 68, Madame X, Bazin, bon, je veux dire, les enfants de divorcés étaient montrés du doigt. Si on n'était pas marié, ça ne pouvait pas marcher. Parlons pas de la pilule. La pilule a été votée en 1967, la loi, et les décrets d'application en 1973. Donc il y avait une telle pression sociale qu'il a fallu toutes ces années pour que la loi passe. Bon, les lois répressives sur l'avortement et la contraception de 1920 n'ont été abolies qu'en 2002. Donc bon, je veux dire, l'homosexualité a été dépénalisée en 81, bon, etc., etc. Je veux dire, il y a des tas de choses qui ont changé. Donc, je pense qu'il y a une plasticité. Une plasticité possible, il y a des transformations possibles. Alors, ne serait-ce par exemple que maintenant on enseigne ça à l'université, je suis très étonnée, enfin pas très étonnée, mais très heureuse de voir les débats qu'il y a au niveau de la jeunesse sur ces questions. Il y a de très nombreux débats au niveau des étudiants, et les débats ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ou 30 ans, c'est clair. Et en même temps, j'entends par exemple des jeunes femmes qui disent « Mais madame, moi je sens la pression sociale pour que je fasse un enfant, et qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben moi j'en pense rien. Simplement, oui effectivement, il y a toujours une pression sociale pour que les femmes entre 25 et 35 ans fassent des enfants. Et oui, elle existe. Bon, est-ce que c'est votre choix individuel ? Est-ce que pas ? Bon, ben ça, c'est votre décision, c'est pas la mienne. Donc, je dirais, plasticité, oui. Je suis d'accord. Je considère qu'il y a une plasticité. Alors ensuite, vous dites, si je comprends ce que vous me dites, vous dites, je suis féministe, et les féministes, grosso modo, enfin, je dirais pas c'est ringard, mais les féministes, elles se placent contre. Et donc, il ne faudrait pas se placer contre. Alors, il y a plusieurs choses. Quand je décris les rapports sociaux, je ne me place pas contre. Je décris des rapports sociaux. Mais dans ces rapports sociaux, je suis bien obligée de constater qu'il y a des dominants, des dominés, des normes. Donc, je ne me place ni pour ni contre. Je décris simplement ce qui se passe. Alors, évidemment... Et c'est là que c'est peut-être choquant. Après, j'ai un point de vue. Et je suis d'accord avec vous, j'ai un point de vue féministe. Et effectivement, j'ai vu ce que j'ai vu parce que j'étais dans la place de la dominée. Et effectivement, d'un point de vue académique, mon discours est moins légitime que le dominant. Parce que le dominant se prend pour l'universel. Qu'il n'est pas. Et ça, c'est tout le problème. Effectivement, il y a moins de femmes à l'université, il faut deux fois plus de publications pour être reconnues, enfin bon, j'en passe et des wagons. Mais, comment dire, ça n'est pas parce que... Bon, Marx l'a dit bien avant moi, et il est beaucoup plus reconnu que moi. Platon, la dialectique du maître et de l'esclave. Bon, il y a toujours, comment dire, le dominant ne voit pas toujours le dominé, mais le dominé, quand il devient conscient, il ne peut pas ne pas voir le dominant. Et donc, d'une certaine façon, le dominé a une vision plus large que le dominant. Donc, je considère que mon point de vue est légitime.
Ce que je veux dire, c'est que c'est très identitaire. C'est l'identité d'une femme.
Enfin, vous vous posez. Enfin. Mm-hmm.
Et vous, qu'en pensez-vous ?
Et moi, qu'est-ce que j'en pense ? C'est que, en fait, je ne suis pas si sûre que ça, que le dominant soit complètement dominant.
Mm-hmm. Je suis d'accord.
Il est dominé par beaucoup de choses.
Tout à fait.
Par une pression sociale qui est encore pire. Peut-être. peut-être que la femme, enfin je sais pas, mais c'est voilà, donc c'est, je sais pas, comme ça que je vois les choses.
J'ai quelque chose à dire, je dis quelque chose là-dessus ou vous...
C'est en relais, hein.
Oui. En relais. Alors allez-y.
Non, il me semble que j'ai un petit malaise ce soir parce que j'ai pas bien compris finalement quel était le thème de la soirée. Mais j'ai le sentiment en tout cas là, le dominant dans votre exposé, c'est la question du corps médical et c'est la question du pouvoir médical.
L'un des dominants.
Il me semble. On n'est pas sur le dominant masculin. Enfin après, il révèle le dominant médical, révèle un dominant général historique. Mais est-ce que vous connaissez les travaux de Geneviève Delizier de Perceval ?
Bien sûr.
Ouais. Et en fait, moi, j'ai réalisé plusieurs films sur les PMA, médicalement assistés, les procréations. Il y a bien des années, je crois que ça fait maintenant une quinzaine d'années, j'avais rencontré Geneviève Delizier de Perceval. Elle m'avait dit, mais Judith, c'est tout simple. À un moment, la médecine n'a rien à faire là. On peut faire une insémination artificielle avec une petite cuillère. Absolument. C'est vrai que quand vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'opération, c'est pour les
fécondations.
Voilà. Mais sinon, il y a tout. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du débat de ce soir, mais moi, je crois que c'est la place du pouvoir médical par rapport à la façon dont les gens peuvent s'organiser entre eux. Bien alors, c'est vrai que du coup, je regrette peut-être un peu ce soir, mais peut-être que Vincent va tenir ce point de vue, qui n'est pas quelqu'un qui représente les combats de la PGL ou d'associations sur tout ce qui est possible. Absolument sans la médecine, et où elle a rien à faire là, et où elle occulte les vraies questions.
Enfin, elle occulte, en tout cas, elle est là.
Mm-hmm. Oui, oui, oui. Oui, mais elle les absorbe dans quelque chose, dans un, je dirais, un liquide amniotique pseudo-scientifique, qui est l'idée du soin, l'idée qu'il y a de la maladie et du soin, il y a et qui est faux, parce qu'on peut s'organiser à plusieurs, avec des petites cuillères, en couple, c'est des questions de... Non, mais vraiment, enfin, c'est ce que j'ai compris.
Ah bah, de toute façon, ce que j'ai dit en 1776.
Et là, on est dans le politique, on n'est plus. Et voilà, et la médecine occulte la question politique.
Bien sûr.
En la rabattant sur la pathologie.
Non, effectivement, Julie, je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que c'est aussi pour ça que. Honnêtement, quand j'ai su qu'il y avait cette séance-là, sur ces séminaires, j'étais un peu partie avec beaucoup d'a priori en me disant, mais je comprends même pas pourquoi on parle de la procréation, de la reproduction, alors qu'on était dans des trucs super de genre, de queer et de constructivisme. Je disais, oh là là, mais je comprends rien. Et en même temps, là, je suis super contente parce que, pour moi, il y a eu toujours ce spectre, surtout le long du séminaire, où, derrière des enjeux de minorité sexuelle et identitaire, de libre disposition des corps, que ce soit les convergences de lutte entre les féministes, même les trans, et on va continuer bien plus loin avec les PMA et tout ce que tu veux, il y a toujours ce truc de pouvoir omniprésent qui se cache soit derrière du pseudo-scientifique, soit derrière des idéologies moralistes. Mais effectivement, enfin, et comment on fait face à ça? Moi, j'ai pas de solution. On voit encore SOS tout petit casser des personnes qui sont pro-IVG et ça se passe en 2008. J'ai pas de solution, mais effectivement, le spectre du pouvoir, il est toujours là.
J'ai plusieurs choses à dire au milieu. Vas-y, vas-y.
Je suis débranchée. Ah non, je suis branchée. Juste, il y a un point quand même, parce que effectivement, lorsqu'il n'y a pas de pathologie, ça existe. C'était pas pour rigoler que je disais la pipette. C'est vrai que bon, il y a des mecs qui ont des bons spermes, qui sont ok pour donner du sperme à un couple de femmes lesbiennes. Ça se fait. Et c'est d'entre nous, d'entre soi, comme vous dites, on s'organise comme on peut. Mais là, ce dont on parle et ce qui est compliqué, c'est à partir du moment où il y a impossibilité à procéder comme ça, qu'il y a de la souffrance, de l'enfermement et de la culpabilité. Je crois qu'on est dans des... Et on n'est pas franchement non plus forcément branché dans des réseaux, dans des machins. On fait une affaire de soi à soi ou de couple. Il y a quelque chose d'isolement qui peut se produire aussi. Donc on va consulter qui ? Le corps médical. Et parce qu'il y a quand même une souffrance. parce qu'on correspond pas à une normalité de comme tout le monde, faire des enfants comme tout le monde, etc. Peut-être que bon, je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance qui est là-dedans, qui est pas forcément un truc joyeux qu'on fait en soi, quoi, qu'on peut faire aussi simplement. Tu vois, il y a quelque chose, idem dans le corps qui souffre, qui veut changer, etc. Ce rapport au médical par lequel il est obligé de passer parce qu'il y a on a un débat là-dessus déjà. C'est de la souffrance aussi. Il faut accepter des souffrances pour se transformer, etc. Et il y a toujours ce regard de l'autre sur soi. Enfin bon, il y a quelque chose de l'ordre de la souffrance pour moi dans le désir de modifier ou changer quelque chose qui n'y était pas là auparavant, ou qu'il faut, avant de donner le biberon, avant de donner, je sais pas de quoi on a parlé, il faut que la chose elle existe déjà.
Est-ce que je peux me permettre, parce que j'aurais...
Une toute autre question.
Mais oui, alors justement, avant j'aimerais peut-être dire deux ou trois choses, mais oui. On garde votre question.
D'accord.
La première chose que j'aimerais dire, c'est sur la... Parce que j'aimerais dire deux choses par rapport à votre intervention et puis une par rapport à la vôtre. La première chose, c'est quelle est la posture du sociologue ? Parce que ce que vous remettez en cause, enfin, ce que vous dites, c'est l'identité de femme, et c'est parce que j'ai cette identité que je dis ça. Enfin, c'est par rapport à mon identité de femme. Alors là, il y a plusieurs postures possibles quand on est sociologue. Moi, de mon point de vue, la seule posture honnête, aujourd'hui, c'est de considérer que la production de connaissances, c'est la production d'une interaction. C'est-à-dire, c'est l'interaction de moi avec l'observé. Et je dirais que même en sciences dures, moi au départ je suis mathématicienne, donc même là, on sait qu'en physique par exemple, c'est Heisenberg qui l'a montré au début du XXe siècle, quand on projette des faisceaux d'électrons, on perturbe le phénomène observé. Donc ce qu'on observe, c'est jamais l'observation, c'est toujours une interaction avec l'observation. Et donc la position honnête, c'est de dire ou de faire de montrer, on va dire, voilà moi où je suis située, et c'est en étant située là que je vais donner telle projection sur l'objet, et un autre donnera une autre projection, et donc très bien, chacun va donner sa projection et on en connaîtra plus. Or effectivement, parfois on nous fait croire que c'est la science universelle parce que X a dit ça. Non, c'est simplement qu'il est bien placé dans les médias ou je ne sais où, mais il n'a pas plus la révélation universelle. Il sera peut-être homme, femme, transsexuel, homosexuel, hétérosexuel, j'en sais rien. Donc, voilà. Donc, je trouve que vous me faites un compliment en me disant que je parle d'une identité, enfin, d'une place. Oui, je parle d'une place définie. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est l'histoire dominant-dominée, est-ce que les hommes, etc. Alors bon, c'est un grand débat. Si vous souhaitez approfondir ce débat, je vous conseille vivement de lire le livre de Bourdieu, La domination masculine, et le débat qui a eu lieu derrière dans le numéro 1 de Travail, genre et société, et aussi dans à la revue de Sartre et Simone de Beauvoir, là, Les temps modernes. Parce que dans ces deux revues, on voit très clairement le débat. Globalement, Bourdieu, qui a bien étudié la domination masculine, en arrive à un moment donné à dire, la fameuse phrase de Marx, le dominant et le dominé sont tous deux dominés par la domination. Certes, certes. Et il dit, voilà. Donc, mais malgré tout, tant qu'à faire, il vaut quand même mieux être dominant que dominé dans cette histoire. Donc, évidemment, ça me paraît clair. Bon. Et donc, oui, évidemment, les femmes ont bénéficié du combat des féministes. Oui, évidemment, les hommes ont inventé une nouvelle place. On est bien d'accord. Mais, ma foi, il faut qu'ils se bougent les fesses, vous m'excusez, mais bon, je sais pas comment dire. Je peux pas le faire à leur place, même si je suis solidaire, même si j'ai écrit des choses sur l'éternel masculin, même si je suis absolument d'accord que les hommes aussi sont face à une virilité et qu'ils sont pas nécessairement d'accord avec ce qu'on leur impose, etc., etc. On est bien d'accord. Mais il faut s'y mettre. Je suis d'accord. Alors, troisième chose, c'est ce que vous dites sur la question de la pathologie. Je suis complètement d'accord. Hein. C'est ce que j'ai essayé d'indiquer en montrant la médicalisation de la société. en montrant aussi que en 1776 il y avait un médecin mais qui était pas là, et c'est le couple qui s'est débrouillé pour faire l'insémination artificielle. Ils ont pris une seringue chauffée, ils se sont débrouillés entre eux. Donc il n'y a pas besoin de médecin pour faire une insémination artificielle. Pour une fécondation in vitro, oui, mais pour une insémination artificielle, non. Et cette question est... Bon, moi je la vois comme ça, j'ai pas encore écrit ça, mais je l'ai pas encore écrit, théorisé vraiment, mais si je prends l'émancipation au moment de la Révolution française, pour se débarrasser de la royauté, les hommes ont acquis leur citoyenneté. Mais au XXe siècle, de fait, les femmes, pour avoir libre disposition de leur corps, ont eu besoin, entre guillemets, des médecins. Et ça a eu un tas de conséquences, il y a eu des tas de débats dans le MLAC, etc. Certains médecins se sont positionnés pour le pouvoir des femmes et d'autres pour le pouvoir médical. Donc il y a des débats là, il y a une histoire. Alors quand vous me dites oui c'est possible sans médicalisation et tout, je suis d'accord avec ce que tu dis, il y a une souffrance, il y a recours médical, il y a une institution dominante. Et quand vous me parlez de la PGL, donc je vous en dis deux mots sur cette question, donc ce que j'ai appris...
Je précise juste, la PGL, c'est l'association des parents gays et lesbiens.
Voilà, pardonnez-moi, oui, effectivement. Donc, j'ai appris quelque chose qui m'a tout à fait intéressée, parce que donc je suis aussi en train de commencer. Et donc, je suis intéressée, on va mener un certain nombre d'entretiens sur des trajectoires de personnes qui font des fécondations in vitro. Donc, si vous connaissez des personnes qui seraient d'accord pour qu'on fasse des entretiens avec elles, venez me voir, je suis intéressée. Et donc, dans cette dynamique, à la PGL, j'ai compris et j'ai appris que donc les femmes lesbiennes qui vont à Barcelone, par exemple, maintenant ça devient un commerce, il y a une clinique à Barcelone qui est un commerce pour les inséminations artificielles, et donc les paillettes, il y a moins de paillettes, on en met moins dans les paillettes, et dès que ça marche pas trop, on leur dit dehors, ou on leur dit fécondation in vitro, alors qu'a priori elles sont pas infertiles. Donc il y a une pression à la médicalisation, y compris dans ce cas. Alors ceci étant, je suis absolument d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'hôpital pour une insémination artificielle, hein. Ça c'est clair. Ça c'est... Bon, on est d'accord. Hein.
2000 ans déjà, c'est arrivé, je crois, mais c'est un
Voilà, tout à fait, absolument. Dans l'imaginaire, et même avant Zeus et compagnie.
Oui, alors, bonsoir. Oui. Moi, j'avais une toute autre question, puisque c'est sur la sexualité aussi, et non seulement sur la reproduction, sur l'insémination, qui m'intéresse beaucoup moins, en tant que lesbienne, puisque j'ai pas envie de faire d'enfants. Donc, sur la sexualité, je voulais savoir si beaucoup d'enfants naissent hermaphrodites. Et si c'est le cas... Je voulais savoir, on m'a dit que, des amis m'ont dit que le docteur, le corps médical, souvent décide de lui-même du sexe du bébé, sans que les parents ne sachent ce qu'a fait le docteur. Donc, un enfant naît avec un sexe, qui n'est peut-être pas celui qu'il a désiré au départ, il vit... Il ne sait pas qu'il y a un secret médical derrière. Il ne sait pas qu'il peut demander le dossier médical auprès de l'hôpital où il est né, sinon aux archives. Mais il y a une date limite pour obtenir cette information, ce qui est quand même très très grave. Je pense que c'est vraiment un problème crucial en ce moment. Il faut pointer le doigt dessus. C'est pas du transsexuel, c'est pas de l'homosexuel. C'est pas de l'hétérosexuel, c'est un phénomène très courant, paraît-il, et qui est complètement occulté par la société parce que ça gêne énormément. Parce que c'est la nature, c'est un fait naturel, c'est pas un fait culturel. Et en même temps, c'est un fait culturel puisque c'est le corps médical qui va le transformer en fait culturel. Ça, c'est vraiment, c'est ça, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Voilà, merci.
Bon, madame. Bon, j'ai parlé très rapidement tout à l'heure sur ce que j'entendais par système de genre. Bon, donc je suis... Alors, c'est pas une question de sexualité, la question que vous posez. C'est une question de sexe au sens de catégorie sexuée. Donc, moi, ce qui me... Alors, la question du secret médical, c'est pas aussi simple. Alors, la proportion, je sais pas, mais il y a une proportion importante. Et il y a...
Moins dans les chiffres officiels, un peu moins de 2%, mais il est sous-estimé dans le sens où ne sont comptabilisées dans les personnes intersexes que les personnes diagnostiquées comme étant intersexes à la naissance, et pas les personnes qui sont intersexes et qui le découvraient des années plus tard, quoi. 100%. 100%.
Devenir.
Non, je sais pas si tu veux compléter.
Oui, moi ce que je veux dire, c'est effectivement, vous avez posé la question des hermaphrodites, mais la question, elle est plutôt la question des intersexes, c'est-à-dire l'ensemble. Il n'y a pas que des hermaphrodites, il y a un tas, il y a beaucoup de comment dire. Toute la question dans ces catégories sexuées, c'est un certain nombre de marqueurs sexués, et les marqueurs sexués sont différents. Donc il y a des marqueurs sexués qui sont des marqueurs génétiques, donc XX, XY, XXX, XXY, YY, etc. Il y a des marqueurs gonadiques, il y a des marqueurs, donc gonadiques, les gonades, il y a des marqueurs hormonaux, il y a des marqueurs au niveau des caractères sexuels secondaires. Donc déjà la question est, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas vrai qu'il existe des hommes et des femmes, puisque de fait, il n'y a pas coïncidence de tous ces marqueurs dans une partie importante de la, dans une partie de la population. Et ensuite, il y a effectivement des cas où les choses sont extrêmement visibles, on va dire. Hein? Et il y a des cas où les choses ne sont pas très visibles. Je sais pas, ou qui sont visibles. Bon, quelqu'un qui est XX et qui a une voix grave, bon, où on le case. Quelqu'un qui est quelqu'un qui est XX, je sais pas, il y a des trucs. Moi, je sais pas par cœur tous ces trucs. Mais qui a extérieurement un corps d'homme, mais n'empêche que il correspond pas à la catégorie biologique telle qu'elle est définie par les scientifiques. Donc toutes les personnes intersexes, il y en a un certain nombre, il y en a un nombre important. Alors je suis d'accord avec ce que dit Vincent, c'est que c'est très difficile de l'estimer pour tout un tas de raisons, parce que on le dénombre pas. Déjà c'est toujours difficile les statistiques, mais là c'est particulièrement difficile. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est au-delà de la statistique, d'abord, c'est qu'il y en a. Il y en a pas, c'est pas un sur un million, il y en a. Dans certaines régions du monde, il y en a de plus en plus, pour des raisons diverses d'équilibre écologique. Mais ce qui me paraît le plus important dans cette histoire, à la limite, c'est pas le nombre exact, c'est que ça met en cause la question de la catégorisation binaire. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que ça pointe du doigt. Et dans mes cours, moi, je fais des cours notamment à des gens qui vont être après certains psychologues de la santé et qui donc travaillent dans ces services. Et donc, presque chaque fois, j'ai eu des gens qui m'ont soulevé ce problème. À Lyon, c'est l'hôpital de Brousse, où il y a un service qui est spécialisé donc dans le traitement des enfants qui naissent avec un sexe indéterminé, on va dire. Ce qui pose problème à mon sens, alors là j'ai pas entendu parler de secret médical. Peut-être qu'il y a secret médical jusqu'à un certain point, je sais pas. Donc ça c'est tout à fait possible, il complétera, vous compléterez, je sais pas. Je suis pas spécialiste de ça. Par contre, ce qui me paraît important, le secret médical c'est un plus dans l'affaire. Mais ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est que on attribue, il y a un consensus social qui attribue un sexe, donc qui met un individu dans une catégorie. Or, cet enfant ne sera jamais de cette catégorie-là, puisque de toute façon, il sera pas, je dirais, homme ou femme au sens qui est attendu par la société. Donc, il ne répondra jamais à l'attente de la catégorie en question. Donc, ce que ça met en évidence, c'est que ce système de catégorie n'est pas pertinent. Et donc, ce que ça met en évidence, moi, ce que j'explique aux futurs psychologues de la santé, c'est que, parce que eux, ils sont dans une idée, comment arranger les choses, hein, donc comment faire pour que les parents acceptent la décision, l'enfant accepte la décision, quelle qu'elle soit, comment il va se configurer en homme, femme, et je sais pas quoi. Non, à mon avis, la question n'est pas là. La question, elle est que ces personnes-là sont le symptôme d'une catégorisation non pertinente. Et tant qu'on n'a pas accepté le fait que cette catégorisation n'est pas pertinente, ces personnes-là n'ont pas de place dans la société, de mon point de vue. Enfin, n'ont pas de place, entendons-nous bien. C'est pas que je leur en donne pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas comment un individu qui, mettons, qui est hermaphrodite, peu importe, qui est intersexe, qu'on va caser arbitrairement d'un côté, à la naissance, ou enfin à la petite enfance, tout ça. À la naissance, oui, mais je veux dire, c'est à la... Oui, oui, mais c'est à la naissance, mais c'est pas toujours le premier jour, enfin, vous dites... Oui, oui, non, mais même dans les mois qui suivent, c'est l'équipe médicale avec les parents qui décident. C'est, entre guillemets, c'est mieux ou c'est pas mieux, c'est pareil, hein. Parce que le gamin, quand il a 15 ans, même si on lui a dit ce qu'il était, de toute façon, socialement, il est où? À fait. Bon, c'est encore pire, entre guillemets.
Voilà. Non, mais ce que je voulais dire, c'était monnaie courante. C'est ça, je voudrais qu'on ouvre un peu le débat là-dessus. Il y a vraiment une obscurité, une occultation flagrante sur ce problème, mais incroyable. Mmh. Énormément d'enfants naissent avec un sexe indéterminé. Ils sont opérés à la naissance sans que la maman le sache. Mmh. Il devient femme ou il devient homme à la naissance. Et un jour, eh bien, il peut obtenir le dossier médical, mais c'est un secret médical. Souvent, c'est peut-être même pas noté sur son dossier, parce que c'est un enfant, il y en a plein qui... une journée, imaginons, il y a beaucoup de travail, le docteur a beaucoup de choses à faire, il ne note même pas sur le dossier médical du patient.
Voilà. Mais même s'il le sait, même si les parents le savent, c'est une catastrophe. Je veux dire, il y a des cas où les parents ne le savent pas, mais il y a beaucoup de cas où les parents le savent, et c'est aussi une catastrophe. Alors, je ne sais pas, à Debrousse, ils le savent. Alors, effectivement, moi, ce que je connais comme service hospitalier à Lyon, ils le savent, mais il y a sûrement des cas où ils le... Et puis, historiquement, il y a des cas où on le sait très bien, où ils ont fait des expériences. Le fameux Monet, il a fait exprès, bon, etc. Ça, c'est clair. Bon, mais peut-être que tu sais plus de choses là-dessus, donc vas-y. Ah, absolument.
On avait fait un séminaire autour de ça. Un des séminaires, il y a un des séminaires sur la question, on avait parlé de ça, de ce sujet-là. C'est pas grave. Voilà.
Mais je...
Oui, je voulais juste t'apporter une précision, puis Vincent va compléter, va suivre après. La première, c'est qu'il faut tenir compte aussi d'un certain nombre d'urgences médicales. C'est vrai que l'obligation d'assignation dans une classe de sexe à la naissance est une obligation légale, et que, ben voilà, pour le coup, j'ai une connivence entre le pouvoir politique et le pouvoir légal et le pouvoir médical là-dessus. Donc c'est une obligation. Donc on va enlever un certain nombre de cas où c'est une urgence médicale réelle. C'est-à-dire qu'il faut opérer parce qu'il y a une nécessité de survie. Je veux dire, ça existe aussi. Donc, je veux dire, faut considérer qu'à la naissance, parfois, il y a des obligations, il y a des urgences médicales. Je veux dire, quand... par exemple, si l'urètre bouge pas là où il faut, hein, par exemple, il peut y avoir des risques d'infection, il peut y avoir ou carrément il n'y a pas de, enfin l'urètre n'a pas de sortie. Donc dans quel cas il faut à ce moment-là, il faut faire un geste médical. Donc il y a des cas qui sont souvent liés à des problèmes d'intersexuation qui sont des urgences médicales. Ensuite, il y a le fait qu'il y a toutes les autres tous les autres gestes chirurgicaux sur les intersexes, enfin, sont classés urgences médicales, mais ne le sont pas. Mais en aucun cas, je veux dire, ça peut se faire techniquement sans l'information des parents et sans, je veux dire, obligatoirement l'autorisation des parents. C'est-à-dire que, je veux dire, l'idée même qui consiste à dire, c'est tout simple, je veux dire, on va mesurer un certain nombre de tests, on va mesurer si ça ressemble plutôt à une petite bite ou un petit clit, et puis à ce moment-là, on va décider, mais dans la plupart des cas, avec une règle simple, il est plus facile de creuser un puits que de bâtir un mât, c'est ce que disent les médecins. Donc on va plutôt creuser plutôt que de construire. Mais à partir du moment où on a creusé un espèce de néovagin, ben forcément c'est un acte chirurgical. Il faudra après qu'il y ait, c'est très bien décrit par les responsables de l'Organisation internationale des intersexes, il va falloir faire des gestes médicaux permanents pour que la personne assignée, voilà, fasse une sexualité.
Oui, j'avais un truc à rajouter, maintenant ça m'est sorti de la tête, évidemment. Oui, par rapport aux urgences médicales et par rapport au secret médical, il y a plein de choses qui sont aussi en jeu sur le fait que les parents ne soient pas réellement bien informés de A à Z de ce qui va se passer, comment on camoufle aussi les informations. Évidemment, les personnes intersexes peuvent récupérer leur dossier médical, mais ça arrive très souvent dans la plupart des cas, on va leur dire bah, il a été paumé, il a été perdu, donc oui, tu peux récupérer ton dossier médical, mais si tu y comprends rien, comment ? Oui, bien sûr. Mais et en même temps, qu'est-ce que ça peut apporter de plus que ce qu'on a déjà fait, au fond, à part de savoir, effectivement. Mais ce que ça remet en question, les questions intersexes, c'est davantage effectivement que c'est un fait non pas de culture et comment on décide finalement de tailler dans les corps plutôt que de tailler dans la culture. C'est plutôt ça qui effectivement est intéressant. Je le nie pas, je pense qu'il y a un rapport aussi de domination par les pouvoirs médicaux qui n'informent pas des assignations qu'ils vont faire sous couvert d'une urgence médicale.
Voilà, qui n'informent pas des parents, par exemple, des parents ouvriers qui n'auraient aucune connaissance, ils ne les informent pas. Je veux dire, il y a une certaine autorité patriarcale, aussi hiérarchisée dans la société, qui dit, bon, tel enfant naît de parents, par exemple, ouvriers, on ne va pas l'informer, on fait notre truc, et puis voilà.
Ils sont obligés d'informer, mais je te dis juste que on ne sait pas comment informer pour que l'information soit reçue à 100% de façon claire, pour que la décision soit libre, éclairée et réellement consentante. Mais il y a de toute façon une information.
Non, moi, je confirme, je pense vraiment que la loi, c'est ça, mais effectivement, même, comment dire, on ne sait pas comment l'information est donnée, premièrement. Et deuxièmement, même quand, moi, c'est des discussions que j'ai eues avec ces collègues qui travaillent dans qui étaient stagiaires dans ce service à Lyon, service spécialisé dans cette affaire, c'est une décision impossible. Parce que, effectivement, le geste chirurgical le plus simple, c'est que ce soit des filles. Mais de toute façon, c'est une décision invraisemblable. De toute façon, ce sera ni une fille ni un garçon quelque part. Donc, et pourquoi la caser comme fille et pourquoi la caser comme garçon ?
Pourquoi on les laissait pas hermaphrodite avant, on les laissait
hermaphrodite ? Absolument, absolument. Donc,
c'est le cas de Foucault, il a cité le livre d'une hermaphrodite.
Herculine Barbin.
Voilà, tout à fait. Mm-hmm. Voilà, elle est restée hermaphrodite.
Absolument. Absolument. Mais je dirais que c'est exactement le même problème que la question des mères porteuses, qui fait scandale alors que la question des hommes d'honneur fait beaucoup moins scandale. C'est que dans notre société, par exemple, il est impensable, ou difficilement pensable, de dissocier la mère en mère génétique, mère porteuse et mère sociale. Alors que on accepte le père d'honneur et le père social. De la même façon, c'est extrêmement dérangeant de considérer qu'il peut y avoir des personnes qui sont ni hommes ni femmes, ou qu'il y a simplement des individus qui sont, peu importe, que la question, la caractéristique sexuée, je dis pas sexuelle, la caractéristique sexuée, est seconde. Et comment dire, variée. Il n'y a pas deux. Alors, il y a eu des changements quand même là-dessus. Maintenant, quand on est, on peut changer au niveau de son numéro de sécu de 1 à 2 ou de 2 à 1, ce qui est récent au niveau de la loi française. Mais bon, c'est vrai que c'est bouleversant pour les gens de dire il n'y a pas que des hommes et des femmes, de fait.
Juste pour préciser rapidement, oui, ça fait pas très longtemps qu'on peut changer. Le changement d'état civil, c'est depuis 92, suite à la décision de la Cour de Casse. Par rapport aux questions transsexuelles, maintenant c'est pas aussi simple que ça, dans la mesure où on t'astreint à une castration physique qui correspond à une ablation des ovaires si tu passes de mâle de femelle à fille, et une vaginoplastie dans le sens contraire. Donc voilà. Mais tout ça, on l'a abordé déjà dans d'autres séminaires, celui du 5 décembre, monde médical et construction des normes, qui est online, j'ai une très bonne mémoire. Donc www.maisonpop.fr, vous avez en ligne l'ensemble des séminaires, l'ensemble des abstracts correspondant à, aux interventions des intervenants. Voilà. Et on va peut-être s'arrêter là du coup. Karine, tu fais chier. Ok.
On n'est pas, mais j'avais une question depuis tout à l'heure. Tu as pas parlé beaucoup de ce qui me semble encore un élément particulier, c'est le politique. Alors certes, le politique, on sait qu'il est essentiellement, enfin, issu d'une classe dominante, mais cette politique, elle a de manière très constante depuis toujours une politique familiale qui est dessinée. Est-ce que tu penses que cette politique familiale, là, par exemple, comme elle légifère, je pense notamment aux lois bioéthiques et à leur révision. Est-ce que tu crois que ça a un impact sur la manière dont l'ensemble des regards que tu poses, hein, des regards sociaux, des regards sur le genre, est-ce que tu crois que cette petite familiale, elle s'infléchit, et si elle s'infléchit, dans quel sens?
Vous me posez des questions sur tout, hein. je ne sais pas. La seule chose que je peux dire comme démographe, c'est que l'intérêt à la fécondation in vitro est très politique, que c'est pas un hasard si en Israël, en France, on a effectivement des possibilités de fécondation in vitro en France gratuite, que dans d'autres pays, là on vient de m'envoyer là un article sur le Japon. Pour une revue internationale, de lire un article sur ce qui se passe au Japon. Et c'est pas du tout pareil, ça coûte très cher, etc. Donc c'est évident que c'est en lien, hein, je suis tout à fait d'accord. Une autre chose que je vois clairement, c'est que en France, on a depuis toujours une politique familialiste. Et je vois pas tellement qu'elle bouge, et que par rapport aux autres pays européens, on est l'un des pays qui a gardé son taux de fécondité le plus élevé, et que même les pays catholiques ont vu ce taux baisser, et que ça, c'est lié à une politique familialiste. C'est lié aussi, la façon dont sont traités les couples de lesbiennes, d'homosexuels. C'est aussi très particulier, puisque que ce soit en Espagne, où les couples homosexuels peuvent se marier, etc. Donc tout ça, c'est lié à la politique familiale, ça c'est sûr. Mais je suis pas capable d'analyser la politique familiale de l'État français.
C'est une rupture à nationalité, hein, carrément.
Oui.
Le couple hollandais homo, là, qui est français, donc on lui a fait savoir qu'il perdait sa nationalité française, puisqu'en France, on n'avait pas le droit de se marier entre homo.
Voilà.
Maintenant, c'est la communauté européenne.
Voilà, tout à fait. Non, mais la France est très...
C'est nationalité, carrément.
Oui, non, c'est absolument. La France est très archaïque sur toutes ces questions. Non, ça, c'est certain. Ça, je suis... Et bon, je suis aussi démographe, donc je fais partie de l'INED. Enfin, je travaille avec l'INED. Et bon, au sein de l'INED, il y a tout le temps des débats extrêmement violents. Parce que l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, a été notamment fait pour être l'une des courroies de transmission des politiques familiales françaises. Et en même temps, évidemment, il y a en son sein une unité qui s'appelle Démographie, Genre et Société, qui est en lien avec les féministes. Et c'est évident que c'est un autre point de vue qui se développe aussi à l'intérieur. Donc il y a des combats très, très virulents.
Oui, bon, on va peut-être s'arrêter là, du coup, vraiment. Merci, Karine. Alors, je voudrais annoncer la prochaine séance de Sun Ignorette, donc la programmation de films expérimentaux et moins expérimentaux qui a lieu ici. Donc, vendredi 16 mai, Panorama Queer, et les écrans sociaux au cinéma Georges Méliès, donc plus bas. Le mercredi 14 mai, Vincent Dieutré et Patrick Chia. Voilà, et juste rapidement avant de terminer, puisque c'est la dernière séance, moi je voulais remercier la Maison Populaire, vraiment, de m'avoir accueilli cette année, et remercier Annie Agopion d'avoir monté un séminaire de qualité et de m'avoir donné cette place-là. Pour une année, hein, évidemment, mais voilà.